Y a-tu un plus beau moment, père-fils, que de se lancer à la balle?
J'ai compris qui j'étais comme artiste, en fait. Ça a changé des choses.
Je peux pas vivre dans ce passé toxique.
Aujourd'hui, ma vie va mieux grâce à l'abstinence et à la sobriété.
C'est avec le bénévolat que j'ai développé beaucoup plus de bienveillance envers moi.
Sans filtre.
Alors, sans filtre aujourd'hui avec Francine Ruelle, comédienne, auteure de plusieurs livres, dont son dernier, Anna et l'enfant vieillard, qui a une très, très bonne critique générale. C'est un livre extrêmement touchant. On va en parler, bien sûr. Merci, Francine Ruelle, d'être là ce matin. Je sais que ça a été très pénible. Deux heures pour venir d'un hôtel à Montréal.
C'est épouvantable maintenant.
Imagine, s'il y avait une
j'ai
taxe sur l'essence.
En 2003,
ouais.
Ça prenait une heure et 10 à peu près pour se rendre au centre-ville. C'est 2 heures maintenant.
Incroyable.
Oh, la route, ça va tout seul. C'est rendu au pont que ça se morpionne, comme on dit. Puis, puis moi, je suis du genre à fatiguer si je suis en retard. Fait que je fatigue.
Merci d'avoir fait l'effort de venir nous voir.
Puis merci de ne pas avoir m'avoir appelé auteur.
Oui.
J'aime mieux ça.
Autrice, non?
Mot.
Autrice.
Je déteste ça.
C'est vrai? Pourquoi?
Oui, il y a le mot triste dedans, d'ailleurs. Mais on dit ça créatrice, etc. Mais je ne sais pas pourquoi j'aime pas ce mot-là.
C'est juste dans la sonorité.
Déjà, auteur, ça me fatiguait.
Oui.
Fait que
autrice.
Autrice, ça passe pas.
Ouais. Et pourtant, t'es autrice de bien des affaires.
Oui,
ou auteur,
je sais.
Ou auteur, parce que ce que les gens savent moins, évidemment, c'est l'entrevue sans filtre. Alors on,
ouais, mais il y a
va...
des noms pour ça.
Oui.
Romancière, parolière,
ouais.
Scénariste. On peut aller chercher ces mots-là. Écrivain, écrivaine.
Écrivaine.
Voilà.
C'est comme écrire dans le beurre. Tu trouves pas qu'il y en a écrivaine?
Ben, oui. On pourrait jouer sur
tous
les mots.
Ah, mon Dieu,
tout
ça, on finit pas. Mais parolière, j'aime bien parce que tu es une femme de parole.
Voilà.
On se souvenait plus, mais tu as écrit même des chansons pour des fabuleuses chanteuses.
Oui.
On pense à Louise Forestier, entre autres. Puis si je fais jouer celle-ci, les gens vont s'en souvenir.
Prince charmant, c'est un bar. S'offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince du vent, ils s'en viennent, ils s'en vont. Parfois c'est bon, c'est ma vie en suspens, l'amour en passant.
C'est magnifique!
Oui, c'est une belle chanson, un bel accident en plus.
Comment ça?
Ben parce que je travaillais avec André Brassard à l'époque et Louise Forestier faisait partie du même. On avait comme une cellule de création. On travaillait sur Pierrette et un des romans de
Michel Tremblay
sur les filles.
Pierrette à l'école des Saints-Anges.
À l'école des Saints-Anges. Puis, je sais pas, on s'est rencontrés comme ça. On a parlé beaucoup. Puis, elle a su qu'il paraît que j'étais une bonne cuisinière. Fait qu'elle est venue manger chez nous. Puis, elle s'est promenée. J'avais visité la maison. Puis, il y avait exactement le premier couplet de cette chanson-là qui était sur le bureau. Et elle a dit, je veux ça.
Ah.
Alors, j'ai travaillé avec Pierre Flynn, qui m'a proposé le refrain. Alors, on a trouvé Prince Arthur, Prince Amant. Voilà. Puis, il fallait... moi, j'étais pas une... Moi, j'ai pas fréquenté beaucoup les bars. Il fallait être allé 2-3 fois et d'avoir compris aux petites heures du matin la détresse des gens pour être capable de l'écrire. Je pense que si j'avais été dedans, j'aurais pas été capable.
C'est drôle
cette
pour une fille.
Là, j'aime ça, moi.
Tu dis, j'ai pas fréquenté les bars pour une fille qui a participé à l'œuvre, ce succès monstre qui a été Brou.
Mais je bois
gens,
pas de bière.
Non, mais les gens l'oublient, mais t'es comme la
de
fille de Brou.
Encore.
Oui.
Après 38 ans, je suis obligée de le dire encore. Les gens me disent, ben voyons, c'est pas vrai. J'ai dit, gardez-moi, je reçois le chèque, c'est correct.
Je ne crois pas que Francine Ruelle a écrit
parce que
des
eux,
textes de
pièces
de
gars. De gars, écrites par des gars, jouées par des gars, donc dans un univers de gars. Ça aussi, c'est un bel accident. Moi, je vais voir. Moi, je pense que j'ai des talents que je n'ai pas, mais je suis née avec la curiosité. Je dis toujours que les petites filles ont choisi de me donner quelque chose. Je dis toujours la beauté et la grandeur, c'est un back order. Fait qu'ils ont dit qu'est-ce qu'on va y donner à elle. Fait que moi, j'ai la curiosité et c'est sans fin. Moi, je vais voir. Ma mère m'a toujours dit, gars, c'est non, mais si ça marche, t'as coup. Fait que je vais voir. J'y vais. Brou, ça a été ça. C'est Michel Côté qui m'a convaincue avec une drôle de petite phrase que, parce que j'ai dit, tu fous, c'est pas pour moi, Brou. Je peux pas aller là. On connaît pas ça. On a entendu parler. Ben,
on n'a même pas le droit d'entrer dans les tavernes.
On pouvait pas entrer dans les tavernes. On en entendait parler comme quelque chose. On savait même pas si c'était vrai ce qu'on entendait parler. Puis Michel m'a dit, mais sers-toi de ça. Et il m'a convaincu. J'ai dit, non, c'est pas pour moi. On avait 2 semaines pour écrire, même pas 10 jours à peu près, pour écrire parce que Michel Garneau était malade. C'est lui qui écrivait normalement. Fait qu'ils ont ramassé lui chum. Les décors se faisaient. Les costumes étaient prêts, mais il n'y avait pas de pièces. Puis il ouvrait un théâtre sur la rue Saint-Laurent. Fait que. Et Michel m'a juste dit, écoute Francine, dis oui, envoie donc. Toutes les autres filles de Montréal ont dit non.
Il t'a dit ça?
Fait que je pense que je devais marcher à la provocation à l'époque. Avec, j'ai fait comme, OK, je vais m'essayer. Mais je l'ai donné en disant, regardez, si vous aimez pas ça.
C'est quel bout de brou?
Le bout où c'est le personnage de Michel qui s'en fait croire qu'il a oublié ses cigarettes dans son auto, mais il n'y avait pas de cellulaire à l'époque, donc il va dans une cabine pour répondre à la madame de la radio.
Oui.
C'est sa femme, il s'étouffe dans sa bière.
Mon Dieu, c'est trop
mais
bon.
Très triste, puis je voulais que qu'il y ait un homme qui pleure à la fin.
Ouais.
Je savais que mes confrères auteurs mettraient jamais un gars qui pleure dans une taverne.
Puis pourtant, il y en a après
ben
quelques
voilà,
bières.
Mais je savais qu'ils le feraient pas.
Ils ont l'alcool fait, moi, pleureur.
Oui, moi je vais le faire. Je vais le faire.
Donc ça a été une des meilleures décisions de ta vie.
Puis il y a des pièces que j'ai écrites pendant un an et demi qui ont été démolies par la critique, puis qui ont marché 23 jours, mais celle-là 38. Gardons le sait pas.
Brou, c'est fabuleux.
Ouais.
Fabuleux. Il y a eu la saga du bonheur aussi, les livres.
Les 4 livres, on dit saga
livres.
Maintenant. Parce que c'est la trilogie, mais qu'est-ce qu'on dit après 3 livres, ça fait...
Ça fait une saga.
Ça fait une saga.
Ça. Puis quand ça se vend à plus de quoi, 150 000 au moins,
fou,
là.
Oui, oui.
Donc
moi,
c'est payant, là. Écrire
payant,
un livre au Québec.
Ça dépend.
Ça peut être
ça
payant.
Dépend le cas. Ça peut être payant.
Non, mais à 150 000 exemplaires, tu fais combien par exemplaire, mettons?
Normalement, quand on commence, on a 10 % Les gens savent pas que la plus petite tranche du gâteau de l'édition, c'est l'auteur qui l'a. T'as 10 %
Fait que t'as fait 15 000 piastres avec ça.
Un peu plus. 10 000 au début. Puis quand t'en vends plus, t'as 12 000, puis après ça, 15 000. Voilà. Mais c'est ça au Québec.
Mais c'est moins bon que Brou, là, finalement.
Voilà. Ça, parce que du théâtre, des grosses salles et tout. Mais c'est dur de vivre de sa plume au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui réussissent. Parce que c'est juste cette petite tranche-là. En plus, j'ai dit aux gens, quand les gens sont excités de venir nous dire qu'ils l'ont lu en 2 jours, d'autres, ça nous a pris un an et demi à l'écrire, pas de salaire. Des fois, on a un petit abaloir, mais il n'est pas gros. Puis après ça, quand il est publié, on attend un an et des fois 3 mois pour l'avoir. Des fois, on peut l'avoir 6 mois. Mais c'est fou, là. Les gens savent pas ça. C'est important d'en parler.
Ce que les gens savaient pas, c'est que Anna et l'enfant vieillard, c'est un livre extrêmement personnel, intime, parce que Francine Ruel, là-dedans, raconte l'histoire véridique. Et tu me diras jusqu'à quel point c'est romancé, mais l'histoire véridique de ce fils que tu as qui est devenu itinérant.
Oui.
C'était quelque chose d'après une saga du bonheur, retour à la campagne. Là, c'est un roman beaucoup plus
très intimiste, très intérieur. Mais je pense que après le bonheur, j'avais comme envie aussi. Bon, garde, j'ai un certain âge, fait que je sais pas combien de livres je vais écrire encore. Alors je me disais, j'ai envie d'aller ailleurs, de façon littéraire. Je veux fouiller la langue, je veux travailler autrement. J'ai fait rire le monde pendant 4 volumes. C'est formidable, il n'y a pas beaucoup de livres qui font rire au Québec. Et là, je me disais, non, je veux aller ailleurs. Moi, je voudrais faire un virage à 180. J'ai cherché mon sujet et celui-là est monté tout seul.
Mais tu le portes depuis
d'une
longtemps.
D'une drôle
là.
De façon.
Oui.
De quelle façon? Parce que quand j'allais présenter le dernier, Le bonheur est passé par ici, je suis au lac Mégantic, dans une bibliothèque, il pleut à bord de bois, c'était compliqué de se rendre là, en tout cas, bref. Je me rends, j'arrive, et je suis devant une 50aine de personnes, hommes et femmes, très gentilles, très... Puis je raconte un peu mon parcours, ma vie, mon enfance, pourquoi je suis devenue et auteur et comédienne en même temps et tout. Et à un moment donné, il y a une madame qui a dit « Ah, oh, c'est formidable, votre fils a reçu une éducation extraordinaire, les livres, les voyages, etc. etc. » Ça doit être donc, pour lui, ça doit tellement être formidable. J'ai choqué. Pour moi, dans ma tête, ça a duré 10 minutes, mais ça a duré quelques secondes sûrement. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai dit. Je l'ai avoué. J'ai dit « Ben, pas vraiment, parce que mon fils vit dans la rue. » Et je suis retournée après à l'hôtel en me disant « Mais qu'est-ce que je viens de faire là? » Et j'ai fait « Mais c'est très simple de dire finalement. » Parce que tu te vantes pas de ça, tu n'en parles pas. Et là, depuis que le roman est sorti, écoute, on en a vendu à peu près 15 000 en une semaine. On vient de retourner en réimpression. Et tout ce que j'entends, c'est « Merci, merci, merci d'avoir pris la parole. » Et je ne savais pas à quel point il y avait tant de monde qui vivait ce drame-là. Des mères qui me parlent, des pères, leurs fils, leurs filles. Il y a une madame, elle en a deux dans la rue. Leurs frères, leurs sœurs. C'est incroyable. Je fais dire à mon héroïne dans le roman, à Anna. Anna est avec sa psy. Et elle dit à sa psy, ça serait-tu mieux si j'avais un enfant trisomique ou autiste? Et la psy dit, ben, je comprends ce que vous voulez dire. Parce qu'il y a un nom dessus, c'est accepté par la société. Quand quelqu'un est dans la rue, c'est parce que c'est un drogué, c'est un paresseux, c'est quelqu'un qui a peur de se prendre en main, c'est quelqu'un qui a des grosses maladies mentales. C'est pas nécessairement ça. C'est quelqu'un qui a perdu pied, qui sait plus comment s'en sortir, que tout a dégringolé. Moi, je connais un gars qui était en pub, une sommité en pub. Bon, il consommait beaucoup de coke pour tenir le coup, mais il a tout perdu. Son job, sa femme, ses enfants, sa maison, son auto, tout est du jour au lendemain. Il n'y a plus un chum qui voulait l'aider. Il s'est retrouvé à la rue. Mmh. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais c'est ça.
Mais ton fils, bon, il y a eu cet accident. Oui. Évidemment, dans le roman, c'est pas ça. Je dis roman parce que
j'en parle pas. Je veux pas développer cet accident. On appelle ça accident, mais c'est un drame épouvantable.
Il s'est fait frapper, c'est ça?
Non, il s'est fait tirer,
c'est ça, excuse-moi.
Mauvais endroit, mauvais moment. Ouais. Il était avec sa petite blonde de l'époque.
C'est ça. On avait beaucoup parlé.
Il y a eu le conseil, etc. Les gens ont été condamnés. Mais lui, à partir de là, il a perdu pied. Et il a pas voulu beaucoup se faire aider. Son père et moi, on était très présents tous les deux, beaucoup. Mais
est-ce qu'il y a eu c'est parce qu'il a pris des antidouleurs? Oui. Puis...
Ben, tu gèles.
Ouais, c'est
tu gèles, je crois, parce que tu ne sais pas comment vivre ça. C'est, j'appelle ça un pourquoi trop gros pour tout le monde. Et on ne sait pas comment gérer ça. On ne le sait pas.
Et
c'est fragile,
jamais...
la vie. Là. C'est fragile. Ouais. On ne le sait pas à quel point c'est fragile.
Tu sais où il est ce matin, là, au moment où on se parle?
Non, ça fait le 12 septembre, ça a fait 6 mois que je n'avais pas de ces nouvelles. Ça, c'est le max que j'ai eu. Mais c'est arrivé 2 fois seulement. J'étais souvent en contact avec lui. Mais le moins parce que j'ai pris la décision qui est la meilleure, je crois. Moi, je me suis fait aider. Ça fait 2 ans que je suis en thérapie. Je me suis fait aider et ma psy m'a répété, et je le mets dans le roman, redonnez-lui sa vie et essayez de reprendre la vôtre. Redonnez-lui sa vie. Et on pense qu'on les aide en faisant les choix pour eux et prendre les décisions pour eux. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais, le fameux tough love, là. Mm. Moi, je connais une mère de famille, là, qui était en arrière de la porte, à moins 30 sous zéro, et qui empêchait son fils de rentrer dans la maison. D'abord parce qu'il aurait été violent, qu'il aurait vidé la maison pour xième fois pour tout vendre. Et ils l'ont aidé en faisant ça. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait plus de place, puis qu'il s'est remis en question. Écoute, ce jeune homme-là, c'est pas une blague, là, je raconte, là. Ce jeune homme-là a passé son barreau cet été.
Mais il aurait pu mourir gelé aussi.
Oui. Oui. Comme.
Fait que c'est difficile de jouer à la roulette russe avec la vie de ton enfant aussi.
Oui. Puis t'as envie d'aider. C'est ça que les parents font. Ils savent plus. Je rencontre que ça ces temps-ci-là. Des gens qui m'écrivent, des gens sur la rue, des gens qui me parlent pour me dire, mais je sais plus quoi faire avec ma fille. J'ai plus de contact avec elle. Elle a coupé les ponts. Je sais plus où aller la chercher. Faut juste. C'est pour ça que j'ai écrit. Je pense que j'ai écrit l'impuissance d'une mère. Que tu peux presque rien faire. Il y a quelqu'un de l'accueil Bonneau qui j'avais été mis en contact pour l'aider à y trouver un petit appartement et tout. Puis il m'avait dit, en riant, ma pauvre madame, vous êtes la moins bien placée pour aider. Laissez-nous faire. Nous, on sait de quoi on parle. Ce monsieur-là était dans la rue, a repris des études, est devenu travailleur social et travaille à l'accueil Bonneau. Mais on sait, faut qu'il veuille, faut que celui qui est dans la rue veuille s'en sortir. C'est une forme de liberté. L'été, c'est plus facile, mais l'hiver, c'est épeurant de penser. On dort pas.
Ouais.
On dort pas. On pense à eux matin et soir. Puis...
On va à la pause, mais on revient tout de suite après. Je suis en compagnie de Francine Ruel, Anna et l'enfant vieillard. C'est un témoignage qui nous touche profondément, Francine, parce que je pense qu'on peut tous transposer la charge émotive de ce roman qui est vraiment sur fond de ta vie, de votre vie, dans nos vies personnelles. Ben, toi, j'ai quelqu'un qui m'écrit, là, Mariam, qui dit « Ma fille, son fils vit l'enfer de la drogue, est-ce que je devrais lui offrir à elle? Est-ce que ça peut l'aider?
Ben, » ça peut l'aider dans le sens que moi, je peux pas je sais pas comment je peux aider les gens, mais je suis juste une maman puis une auteure. Fait que je suis pas psychologue, mais je dis au monde, faites-vous aider, consultez. Moi, ça m'a... J'y arrivais pas. Je suis arrivée chez une psychologue qui m'a dit pourquoi vous voulez consulter. Et la première phrase du roman, c'est ça.
C'est ça.
J'ai besoin de faire le deuil d'un enfant vivant et je sais pas comment on fait ça. Parce qu'il faut que je m'éloigne parce que je vais en mourir. Moi, j'ai eu un cancer il y a 5 ans. Son père, le père de mon fils, est mort d'un cancer il y a 4 ans. Fait que j'ai envie de vivre encore un petit peu là. Je veux pas mourir de cette histoire-là.
Faut que j'essaie de me reculer. As-tu fait le deuil de ton fils?
Oui, on fait le deuil de beaucoup de choses qui n'y arriveront jamais. Je parle beaucoup avec Sophie Préjean qui m'a appris, elle m'a appris ça, de dire comme, mais mon fils, regarde, il sera peut-être jamais amoureux. Il a 18 ans, mais il sera peut-être, il sait même pas c'est quoi peut-être, il sera peut-être jamais amoureux, il n'y aura pas de bal de graduation, il ne fera pas tel truc.
Donc toi, c'est tout aussi.
Moi, je le fais aussi.
Mais là, ça fait 6 mois.
Là, ça fait 6 mois que je n'ai pas de nouvelles.
Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu le cherches quand même?
Oui. Il y a quelqu'un qui m'aide aussi à le chercher. Mais s'il y a un téléphone cellulaire que j'ai donné, mon vieux téléphone, il y a juste à mettre un petit peu d'argent dedans. La boîte vocale doit être pleine de mes messages. Je dis juste, appelle-moi. Si tu as envie, appelle-moi. Parce
merci.
Que c'est ça qu'on doit faire, c'est tout.
Toujours tendre la main, c'est nos enfants.
Bien, on va toujours être là. Ils le savent quelque part aussi. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a des liens qui se refont avec des gens.
Merci beaucoup, Francine Ruel.
Ça m'a fait
plaisir.
Merci
beaucoup. Je rappelle Anna et l'enfant vieillard. Allez vous l'acheter, sincèrement. Ça va faire du bien dans votre vie. Merci à tout le monde. On se retrouve demain.